en colloque. Une retransmission proposée par Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Comment améliorer une société où se développe perte de lien social, manque de confiance et malaise sur le plan politique, économique et social ? C'est à cette question qu'ont choisi de réfléchir médecins, philosophes et juristes avec un colloque intitulé « L'homme contemporain à travers la science, la morale et la politique ». Il a été organisé en 3 sessions par Bérénice Tournafond, Edgardo Carosella, François Gros et François Terret. Ainsi, le 7 juin 2010 avait lieu le premier volet consacré plus spécifiquement à la science. Et compte tenu de la richesse des conférences, Canal Académie vous en propose la retransmission en 2 parties. Alors ici, dans cette deuxième partie, retrouvez les interventions d'Olivier Houdet et Laurent Degauss. Olivier Houdet est professeur de psychologie du développement à l'université René Descartes, Paris 5, et s'exprime sur la compréhension du comportement humain. Et puis Laurent Degauss, il est membre de l'Académie des sciences, président de la Haute Autorité de Santé. Il revient pour sa part sur la politique de santé. Enfin, la conclusion est assurée par Bérénice Tournafond, co-organisatrice de l'événement. Mais tout de suite, Olivier Houdet.
Le psychologue du développement cognitif de l'enfant s'intéresse à la façon dont l'intelligence va se construire dans le cerveau de l'enfant, du bébé à l'adulte, en passant par l'enfant d'âge préscolaire et scolaire et l'adolescent. Et finalement, notre objet d'étude peut se résumer par la description, avec toutes les technologies expérimentales actuelles, de la construction d'une architecture cognitive qui peut se résumer en 4 principes. L'objet, du point de vue de sa permanence et son unité, le nombre, la catégorisation et enfin le raisonnement. De façon un peu plus précise, si je mets dans la lumière cette bouteille, donc c'est un objet de focalisation de votre perception visuelle, si je fais disparaître cette bouteille derrière moi, il est évident que même si elle est derrière mon dos, elle continue pour vous et pour votre cerveau d'exister. C'est ce qu'on appelle la permanence de l'objet. Si je la cache toujours à la lumière, partiellement, il est aussi évident qu'elle continue d'exister, c'est l'unité de l'objet. Il faut savoir que le jeune bébé, dans les premiers mois de sa vie, n'a ni cette permanence, ni cette unité qu'elle se construit. Donc l'objet de base de toute la cognition et de l'intelligence ultérieure, c'est d'abord et déjà une grande conquête dans les premiers mois de la vie, à travers le cerveau du très jeune bébé, qui est celle de la construction de la permanence et de l'unité de l'objet. Et une fois que cet objet unique et permanent est déjà construit du point de vue conceptuel ou proto-conceptuel, pour le reste de la vie, en quelque sorte, le cerveau humain, au cours de son développement et de sa vie adulte, jusqu'à, je pense, chacun d'entre nous à l'instant actuel, peut faire 2 choses par rapport aux objets, qui peuvent être bien évidemment physiques ou sociaux, objets physiques ou humains, peut faire 2 choses par rapport aux objets, les traiter quantitativement, c'est le nombre. Et c'est pourquoi, expérimentalement, en psychologie scientifique de l'enfant, on s'intéresse à l'émergence de cette notion de nombre qui, sous ses formes les plus élaborées via les acquisitions scolaires et la transmission culturelle, conduira, comme on le sait, aux mathématiques. Donc, traitement quantitatif des objets uniques et permanents ou complémentairement, voire en synergie, traitement qualitatif de ces mêmes objets selon la couleur, la fonction, jusqu'aux critères les plus abstraits et qui conduiront là aussi, via la culture et les apprentissages scolaires, non pas aux mathématiques, mais aux taxinomies. Toutes les taxinomies, les classifications, qu'elles soient scientifiques ou quotidiennes, dont celle que je vous présente actuellement à travers cette architecture cognitive et qui est en quelque sorte une taxonomie ou une catégorisation psychologique. Et pendant une période assez longue du développement de l'enfant, ces traitements quantitatifs, qualitatifs des objets portent souvent sur du concret, c'est-à-dire il faut toujours un objet concret, cette bouteille. L'objet concret peut être absent, il est alors ce que l'on appelle mémorisé dans une partie de la mémoire qui s'appelle la mémoire de travail ou la mémoire à long terme, mais le traitement quantitatif et qualitatif, nombre et catégorisation, porte toujours sur du concret. Et à un moment donné extraordinaire de l'ontogenèse, entre l'enfance et l'adolescence, s'opère un changement radical, une abstraction, pour reprendre également un terme qu'a évoqué François Gros, que Piaget décrivait avec une très belle formule, il disait « Jusqu'à l'adolescence, le possible est un cas particulier du réel. Le possible, c'est ce que l'enfant peut faire avec les objets, les dénombrer, les catégoriser, forme, couleur, fonction, critères plus abstraits. Jusqu'à l'adolescence, le possible est un cas particulier du réel. Et à partir de l'adolescence, le cerveau se configure, et notre cerveau se configure de telle sorte que c'est le réel qui devient un cas particulier du possible. » Et là, vous arrivez au 4e principe que j'énonçais dans cette architecture cognitive, le raisonnement. raisonnement. Le raisonnement hypothético-déductif, tant et si bien que ces traitements quantitatifs ou qualitatifs des objets uniques et permanents vont pouvoir porter sur des idées, des hypothèses, des propositions logiques. Et c'est l'ensemble de cette architecture cognitive qui peut paraître un peu abstraite et éthérée qu'on étudie en fait quotidiennement dans nos laboratoires à travers les techniques de la psychologie expérimentale, score de performance, temps de réaction, ce qu'on appelle la chronométrie mentale, imagerie cérébrale fonctionnelle avec les nouvelles techniques, qu'il s'agisse de la tomographie par émission de positons ou de l'imagerie par résonance magnétique anatomique et fonctionnelle. Et ce que l'on essaye de comprendre, c'est évidemment une tâche très difficile et un système très complexe, c'est comment à partir de tout ce qui a été décrit précédemment, un patrimoine génétique, un cerveau qui est un organe extraordinairement complexe du point de vue du nombre de ses neurones et des connexions possibles, comment finalement chaque individu va construire ou reconstruire pour lui cette architecture cognitive, objet, nombre, catégorisation, raisonnement, qui lui permettra une forme d'intelligence au sens où elle est d'abord une adaptation biologique, mais qui devient très culturelle et intellectuelle. Ce qu'a pu démontrer, de façon très résumée, l'imagerie cérébrale, d'abord anatomique, au cours des dernières années, c'est que cette évolution du cerveau du point de vue de la maturation cérébrale ne se fait pas, comme on l'a longtemps dit ou comme on l'entend encore parfois dire, uniquement au tout début de la vie. C'est-à-dire que vous savez sans doute que la maturation du cerveau se caractérise par des courbes en U inversées, avec d'abord une très grande combinatoire, explosion de connexions, et qu'après, en raison des apprentissages, des sélections, de ce que Jean-Pierre Changeux appelait la stabilisation synaptiques sélectives, vont se sélectionner certains réseaux qui vont provoquer une diminution de matière grise, et c'est un signe d'apprentissage, de développement, de construction de cette architecture cognitive que je vous ai décrivais. Alors le message, ou disons le résultat des données d'imagerie sur ce point récemment au cours du développement de l'enfant, donc là vous avez l'ontogenèse de la naissance à l'âge adulte, est que vous le voyez d'emblée, on observe plusieurs courbes décalées, différenciées, et que selon les grandes régions du cerveau, les grands systèmes cérébraux, la maturation cérébrale connaît un calendrier qui part du plus jeune âge, bien sûr, mais qui va jusqu'à l'adolescence. Et de façon précise, la première courbe que vous voyez sont les systèmes sensorimoteurs qui arrivent les premiers à maturation, donc tout ce qui est vision, audition, motricité. Une deuxième courbe qui démarre plus tard dans le développement et qui va couvrir toute la période préscolaire et scolaire, vous voyez les cortex pariétaux et temporaux associatifs. Pariétal, c'est tout ce qui est impliqué dans le visio-spatial, dans le calcul, temporal, dans le langage, dans la sémantique, dans la catégorisation dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez qu'on retrouve nombre et catégorisation. Et enfin, chez l'adolescent et jusqu'à l'âge adulte, un grand système cérébral très important, celui qui est à l'avant de notre cerveau, qui s'appelle le cortex préfrontal, continue d'être en chantier, en construction et en maturation. Et c'est très important déjà pour la question évoquée en introduction tout à l'heure par François Gros, la question de la fragilité. Ça veut dire qu'à la fois, ce calendrier différencié de maturation tout au long de l'autogenèse montre que les choses se construisent à tout moment, ce qui est plutôt un message positif, et qui montre que neurosciences et écoles, par exemple, ou génétique, neurosciences et écoles ne sont pas des approches contradictoires, qu'au contraire, il faut conjuguer ce potentiel neurocognitif et génétique avec des apprentissages scolaires. Donc c'est positif et en même temps une fragilité, parce que ça veut bien dire que les adolescents, du point de vue de ces fonctions préfrontales, dont on verra tout à l'heure que ce sont des fonctions de contrôle cognitif du comportement, d'inhibition et d'activation de différentes actions ou stratégies possibles, ce cortex préfrontal reste en construction jusqu'à la fin de l'adolescence et donc potentiellement fragile. Ces courbes en fait reflètent les données d'imagerie où on voit progressivement la diminution de la matière grise liée à l'apprentissage cognitif selon les régions du cerveau, et il est évident visuellement que l'ensemble du développement est pertinent, et que la question de savoir à quel âge tout se passe veut tout dire et ne veut rien dire, c'est-à-dire ça dépend du système cérébral et des fonctions cognitives qu'il permet dans une architecture précisément définie. Très tôt, les systèmes sensorimoteurs du bébé sont matures et vont permettre des conduites assez prodigieuses. Vous savez peut-être que dès la naissance, et on l'a testé à quelques heures et même à quelques minutes de vie en maternité, si vous prenez un bébé et que vous le disposez, qu'il soit bien installé et que son attention soit visuellement focalisé sur vous et que vous lui présentez des modèles d'imitation, par exemple, vous lui tirez la langue, ce que je ne vais pas faire, vous ouvrez, vous fermez la bouche tel un poisson, donc ce qu'on appelle ouverture-fermeture de la bouche ou protrusion de la langue, vous allez remarquer que très rapidement, avec un temps différent selon les bébés, puisqu'il y a bien sûr une variation interindividuelle, le bébé va commencer à imiter. Et il va imiter de façon systématique. Si vous modulez le rythme, il va moduler son rythme. Si vous alternez les modèles, protrusion de la langue, ouverture et fermeture de la bouche, il va alterner les modèles. C'est inscrit dans la biologie, pour dire vite. Ça montre que le cerveau, tout complexe, structuré qu'il soit, génétiquement déterminé, est d'emblée programmé pour apprendre. Parce que c'est sans doute la première forme d'apprentissage via l'imitation. C'est déjà, pour la question des émotions, les premières formes d'intersubjectivité, la découverte du soi et du non-soi, mais dans une grande résonance motrice, une grande similarité. C'est-à-dire, il y a toute une théorie qui s'appelle la théorie du « like me », qui est celle de Meltzov, qui dit que le bébé, en tout cas, manifeste d'emblée par sa réaction qu'il perçoit que l'autre est comme lui. Parce que quand le bébé tire la langue, il ne se voit pas tirer la langue, il ne voit que la langue de l'autre tirée. Donc, du point de vue cognitif, c'est ce qu'on appelle l'intermodalité. Il y a déjà un transfert entre vision et kinesthésie. C'est pourquoi nous sommes dans cette première courbe de développement qui commence à maturation sensorimotrice. Un transfert entre la vision et la kinesthésie, c'est-à-dire je vois la langue qui se tire et je retire la langue ou un autre modèle. Ce qu'ont montré en cette matière les neurosciences, et l'une des grandes découvertes des dernières années, c'est que si l'on regarde ce qui se passe dans notre cerveau, dans celui d'un enfant ou d'un bébé, selon qu'il imite, donc selon qu'on imite, donc on est sur le mode actif, ou selon qu'on est imité, vous avez ce résultat spectaculaire qui a été confirmé par à peu près tous les laboratoires au monde qui s'y sont intéressés, qu'on appelle la résonance motrice, c'est-à-dire que les réseaux sont quasi identiques, extrêmement similaires, que l'on imite, que l'on est imité. C'est tout ce qui tourne autour des phénomènes de résonance motrice. Il y a d'emblée un cerveau qui est construit pour rentrer en résonance avec l'autre, et ce qui explique sans doute cette facilité, hein, très très rapide, d'apprentissage. On peut penser que c'est l'un des fondements de ce qui permettra par la suite, j'en donnerai des exemples plus précis évidemment, de l'apprentissage culturel humain et du fait que la pédagogie fait bon ménage avec le cerveau en quelque sorte, parce que d'emblée, par ses conduites imitatives très précoces qui ne sont pas encore très intellectualisées, le bébé montre déjà sa réceptivité à l'autre et à l'apprentissage culturel humain. Il y a tout un secteur dont je ne parlerai pas davantage compte tenu du temps limité, mais pour vous en informer, ça pourrait éventuellement faire l'objet d'autres exposés, qu'on appelle aujourd'hui les neurosciences sociales. Il y a eu la grande mode, comme vous le savez, des neurosciences cognitives, qui reste un champ important et très actif, mais s'y est adjoint plus récemment le champ des neurosciences sociales, avec, en étudiant le lien entre ces premières conduites que je vous ai présentées, d'autres plus élaborées au cours du développement, et de façon générale, ce qu'on appelle l'empathie. On sait que ces conduites fondamentales d'imitation et de résonance motrice avec autrui se retrouvent dans des tâches ou des situations où l'on teste l'empathie, la capacité à se mettre à la place de l'autre et à considérer une très grande communauté entre soi et l'autre. On a vu par les images cérébrales précédentes et qui sont encore partiellement présentes, qu'il y a vraiment, je ne vais pas dire une explication, le mot est inadéquat, mais un fondement biologique à cette empathie qui, elle, est très sociale, très culturelle, qui va jusqu'à l'exemple que vous voyez là du sport, qui deviendra très bientôt de grande actualité, où on voit ces phénomènes de foule, de mimétisme, d'exaltation des sentiments, de contagion émotionnelle, et qui peut aller jusqu'à, vous voyez ces deux individus, ne plus nécessairement se regarder dans les yeux comme le bébé ou l'adulte, mais ça s'est construit par ces mécanismes élémentaires d'imitation et de connivence ou de contagion avec l'autre. Ou d'autres exemples que les sociologues étudient, les réseaux sociaux, Facebook, les apéros géants, etc., où se crée à un moment donné une résonance. Alors, vous avez eu l'exemple de la résonance motrice chez le bébé. On imagine que les nouveaux moyens de communication, les nouveaux médias, les réseaux sociaux travaillent de façon synchrone sur ces multiples cerveaux qui prennent du plaisir à raisonner de cette sorte et à le rendre non seulement imaginaire, mais à le concrétiser par des rencontres effectives dans le réel. En quelque sorte, et c'est un peu l'approche que l'on défend dans mon laboratoire, c'est qu'il y a bien évidemment les processus que je viens de vous décrire, qu'on peut dire le pôle activateur, dont je n'ai donné qu'un exemple, il y en a beaucoup d'autres, où on peut ranger pour la conduite la plus précoce au niveau de l'ontogenèse l'imitation, la résonance cérébrale motrice, aussi la simulation mentale. Je donnerai un exemple à la fin de l'exposé sur le fait qu'à un moment donné de son développement, l'enfant devient capable de tenir compte de la croyance, du point de vue de l'autre, donc de simuler le point de vue de l'autre et d'inhiber son propre égocentrisme, prendre un terme qui aussi est évoqué tout à l'heure. Mais on a tout ce pôle d'activation, d'imitation, résonance motrice, simulation mentale et d'empathie qui est très certainement une dimension de l'humain fort importante qui, par les exemples que je vous ai donnés très et trop rapidement, perdure jusqu'à l'âge adulte dans les phénomènes sociaux. Mais l'idée que je défendrai ici, en général, c'est que c'est tout à fait insuffisant pour comprendre l'intelligence humaine et précisément la construction de cette architecture cognitive que je vous décrivais tout à l'heure. Parce que si on ne se laissait porter que par ces phénomènes d'imitation, de résonance motrice, de simulation, vous verrez, au moins dans deux exemples, que ça nous conduit à être inadaptés et pas nécessairement être très intelligent dans des situations qui, elles, requièrent le processus complémentaire qui est l'inhibition, dont a déjà parlé l'orateur précédent en immunologie et qui est un processus fondamental avec l'activation à tous les niveaux d'organisation du vivant. Et l'inhibition est aussi un processus central en termes cognitifs pour construire cette architecture cognitive que je vous décrivais. Et l'inhibition relève de la dernière des courbes du schéma initial du cortex préfrontal, des fonctions exécutives. Et c'est l'une des choses qui est la plus complexe à acquérir par l'enfant. C'est l'une des choses les plus difficiles à lui apprendre. Et à l'école, on ne parvient pas, et c'est un peu tabou d'apprendre à inhiber parce que c'est présenté comme négatif. Or, c'est une propriété positive de la construction de l'intelligence. Et ce pôle inhibiteur est le complémentaire absolument nécessaire du pôle activateur. Il permet la distanciation par rapport aux autres et, ce qui est sans doute souvent le plus essentiel, la distanciation par rapport à soi, à sa propre croyance, à son égocentrisme, avec l'idée que je vais vous développer par deux exemples expérimentaux, que, et ça Piaget ne l'avait pas développé, Piaget avait développé un mode assimilateur et accommodateur, mais n'était pas allé jusqu'à la notion d'inhibition, qui était sans doute trop négative pour lui. Cette inhibition, ça permet de penser contre soi, contre les autres, avec l'idée que penser, c'est d'une certaine façon toujours, et se donner l'exigence que ce soit toujours être ailleurs. Donc, cette fonction d'inhibition, j'ai pris sciemment, compte tenu du temps limité imparti, un exemple au début de l'ontogenèse et à la fin de l'ontogenèse, et j'essaierai, si j'en ai le temps, de compléter le milieu. Cette inhibition cognitive dont je viens de vous parler, qui est l'inverse de cette résonance et cette activation très précoce via l'imitation, est sous-tendue par les systèmes préfrontaux qui, eux, ne maturent que très lentement et très tardivement. Vous avez ici un exemple de comparaison d'imagerie anatomique du point de vue de la diminution de la matière grise entre un groupe de jeunes adultes et d'adolescents. Et vous constatez que dans les régions préfrontales, donc c'est l'avant du cerveau, la matière grise continue de diminuer fortement, massivement, entre l'ado et le jeune adulte. Cette matière grise est celle qui sous-tend les fonctions exécutives, dont l'inhibition, que je vais vous décrire un peu plus précisément, et montre combien, sur ce plan-là, tout reste à construire, malgré les compétences tout à fait prodigieuses du bébé, par ailleurs, sur le pôle activateur. Ces fonctions exécutives dont je viens de vous parler, qui sont maintenant étudiées vraiment par un grand nombre d'équipes de recherche dans le monde, tant chez l'enfant que chez l'adulte, se situeraient donc essentiellement, même si tout est très distribué dans le cerveau, dans le cortex préfrontal, cette partie la plus avant, et sous-tendent trois processus. L'inhibition dont j'ai déjà parlé, qui de façon très simple en termes cognitifs ou comportementaux, consiste à résister aux habitudes ou automatismes, résister aux tentations, aux distractions, aux interférences. Lorsque tout à l'heure, chacun d'entre nous devait inhiber le bruit extérieur, on était typiquement dans, je prends l'exemple, un exemple le plus simple, dans l'inhibition d'une interférence, mais c'est aussi et surtout vrai, les pensées de l'enfant ou de l'adulte, les stratégies cognitives interférentes qu'il croit parfois être les bonnes et qui ne sont pas nécessairement les bonnes. Cette inhibition, lorsqu'elle parvient vraiment à s'opérationnaliser cognitivement dans le cerveau humain, permet le switching ou la flexibilité mentale, intellectuelle, c'est-à-dire s'ajuster au changement par inhibition d'une stratégie ou d'un mode de pensée et activation d'une nouvelle stratégie. Et le tout s'opère en mémoire de travail, qui est une partie du cerveau et de la mémoire très étudiée par les psychologues et neuroscientifiques. Cette partie de la mémoire qui permet de maintenir et manipuler mentalement des informations ou instructions. Et le petit schéma que vous avez en haut en trois cases vous représente ces fonctions exécutives dans un carré, donc le E pour exécutif. Le carré, c'est la mémoire de travail. Et ces fonctions exécutives exigent très souvent, et je vais vous en donner deux exemples, d'inhiber, ce qui est représenté par les hachures, un certain nombre de stratégie, pour dire rapidement, c'est-à-dire de mode de pensée, d'interprétation du réel, de les inhiber pour ensuite, et c'est le dernier carré, toujours en mémoire de travail, activer de façon spécifique une stratégie ou une compétence que l'enfant a parfois très tôt mais qui n'apparaît pas dans ses comportements par défaut d'inhibition préalable d'une autre stratégie interférente d'une distraction. Je dis l'enfant pour ne vexer personne, mais ça reste évidemment tout à fait vrai de nous, adultes. Ça explique, et je pense que ça sera traité dans l'exposé suivant, enfin, ça sera abordé, la question tout à fait générale, psychologique, morale et politique, de la prise de décision. Et là, pour nous, dans notre domaine, on est dans la genèse des processus de prise de décision qui doit parfois être très rapide, inhiber et activer tel ou tel choix, éventuellement inverser ce jeu d'inhibition et d'activation pour l'appliquer autrement à une autre situation. Voici un exemple qui va vous réveiller, je l'espère, et qui concerne l'adulte. Si on nous place... Souvenez-vous de l'architecture cognitive, objet, nombre, catégorisation, raisonnement. Si l'on nous place, nous tous adultes très intelligents, dans une situation comme celle-là, qui requiert de notre cerveau une pensée hypothético-déductive, on devrait normalement n'éprouver aucune difficulté à réussir ce type de tâche. Sur l'ordinateur, vous voyez apparaître la règle « S'il n'y a pas de carré rouge à gauche, alors il y a un cercle jaune à droite ». Vous devez, parmi les 12 formes géométriques présentes, des carrés, des cercles, des losanges, qui peuvent être bleus, jaunes, rouges ou verts, ce qui nous fait 12 formes, cliquer sur deux formes, en disposer une à gauche, ce qui correspond à gauche dans la règle, une autre à droite, et le jeu d'esprit qui est demandé dans cette expérience aux individus, adolescents ou adultes, c'est de sélectionner deux formes de telle sorte qu'ils rendent la règle fausse. Donc ce qu'on appelle en logique une tâche de falsification de règles conditionnelles. Selon le modèle de Piaget qu'évoquait tout à l'heure François Gros, dès l'adolescence, on atteint le stade de la logique des opérations formelles. S'agissant ici, présenté aussi rapidement, ça peut paraître compliqué, mais c'est une tâche élémentaire, de logique déductive élémentaire. Vous voyez les performances. En bleu foncé, ce sont les réussites, les cerveaux adolescents ou adultes qui sont logiques. Et en bleu clair, ce sont... les échecs par défaut d'inhibition, tels que je vais vous le préciser, que l'on observe. C'était répliqué dans beaucoup d'équipes de recherche au monde. Je l'ai moi-même fait sur des publics très différents, y compris des polytechniciens français, dans le cadre de séminaires de formation pour ce qu'on appelle dans sans doute le plus grand groupe industriel français des cadres supérieurs à haut potentiel. Tous présentent ce pattern d'échecs, enfin de réussites très rares et d'échecs massifs dans une tâche de logique déductive élémentaire. Ce qui évidemment les intéresse assez d'essayer de comprendre pourquoi ils se trompent alors qu'à l'évidence, ils maîtrisent la logique sous-jacente. Donc, c'est là qu'intervient la notion de pédagogie, d'éducation que j'évoquais en introduction tout à l'heure. Ce que l'on crée dans notre équipe de recherche ou dans d'autres, ce sont des stratégies de pédagogie expérimentale où on va faire un apprentissage en laboratoire pour voir dans quelle mesure on peut, par exemple, en opérationnalisant la notion d'inhibition et d'activation que je vous décrivais tout à l'heure sur un matériel tout à fait concret, on peut entraîner, ce qui est le cas ici, pas chez tous les individus, donc là on a un phénomène intéressant de réceptivité à l'apprentissage, plus ou moins grande, avec une variabilité interindividuelle, on peut entraîner une correction d'erreur de telle sorte que la réponse initiale, qui était carré rouge, cercle jaune, dont je vous dis très rapidement pour en discuter après si les logiciens le souhaitent, est une erreur d'appariement perceptif, c'est-à-dire on reprend les deux éléments cités dans la règle, carré rouge, cercle jaune, et on croit de cette façon la rendre fausse. 90% des personnes interrogées, je vous donnerai la situation si vous voulez la tester autour de vous, à l'académie par exemple, 90% des personnes interrogées se trompent. En revanche, après un apprentissage qui porte spécifiquement sur la capacité, vous retrouvez le schéma tout à l'heure qu'on opérationnalise, exécutive en mémoire de travail, d'inhiber, première étape, la stratégie d'appariement perceptif pour activer, seconde étape, une réponse logique qui, dans ce cas-là, est un algorithme. C'est-à-dire que pour rendre une règle conditionnelle fausse, il nous faut un antécédent vrai et un conséquent faux. L'antécédent vrai, c'est qu'il n'y ait pas de carré rouge, donc par exemple un carré bleu. Et le conséquent faux, c'est qu'il n'y ait pas un cercle jaune à droite, donc par exemple un losange vert. Mais comme vous l'imaginez, il y a beaucoup d'autres situations logiques que celle-là. Simplement, il y en a une qu'il faut inhiber. C'est celle qui est induite par la règle carré rouge, cercle jaune. Donc on est là dans une situation expérimentale qui est tout à fait critique de cette dernière courbe de la maturation cérébrale que je vous présentais. La capacité du cerveau humain, non pas à rentrer en résonance avec la situation, comme le faisait le bébé par rapport à l'adulte qui lui tire la langue. Ici, au niveau logique et intellectuel, entrer en résonance avec la situation, c'est avoir tendance à croire que l'on répond correctement en reprenant, en appariant, c'est ça la résonance, perceptivement les deux éléments cités dans la règle. Il faut au contraire inhiber cette impulsion perceptive, se dégager de son cerveau perceptif et visio-spatial pour recruter son cerveau préfrontal qui permet dans ce cas-là d'être intelligent à travers l'inhibition. Nous avons donc répliqué toute cette expérience avec les trois phases, pré-test, apprentissage, post-test, en imagerie cérébrale. Et vous découvrez, c'était déjà en petit, sous les yeux le résultat qu'on a obtenu, qui, je dois le dire, nous a nous-mêmes surpris. Chez les mêmes individus, soumis à la même tâche, selon qu'ils ont été ou non réceptifs à cette pédagogie expérimentale, à l'apprentissage, vous avez une reconfiguration postéro-antérieure du réseau cérébral impliqué, de telle sorte que ceux qui corrigent l'erreur et cette plasticité cérébrale, cette reconfiguration neurocognitive, qui est énorme, hein, parce que c'est de l'arrière du cerveau vers l'avant, des individus dans la même tâche, est provoquée par, je vais reprendre une expression que j'ai utilisée au début, l'apprentissage culturel humain, parce que c'est un adulte, l'expérimentateur, qui explique à l'individu pour quelles raisons telle réponse doit être inhibée, telle réponse doit être activée. C'est donc un résultat qui montre, lui, l'inverse du premier résultat. Ce n'est pas de la résonance motrice. C'est être capable de surmonter une résonance très visio-spatiale avec la tâche en l'inhibant, mais l'humain ne le fait pas, les individus ne le font pas spontanément. Il faut passer par un apprentissage, une pédagogie, donc une intervention d'autres humains qui s'appellent en général dans la société et dans la vie l'école, les éducateurs, et que l'on opérationnalise ici expérimentalement. Un détail méthodologique, vous avez constaté que le matériel sur lequel porte l'apprentissage est différent du matériel expérimental. Néanmoins, c'est une tâche de logique strictement isomorphe du point de vue de ce qu'il faut activer. Algorithme simple de table de vérité, antécédent vrai, conséquent faux, et du point de vue de ce qu'il faut inhiber, un appariement perceptif, sachant que dans cette tâche, l'erreur que font les individus, c'est répondre A et 3, qui sont en fait les deux éléments cités dans la règle, alors que la logique de la tâche exige d'inhiber A et 3 et d'activer A et 7. Le résultat précédent que je viens de vous montrer, donc cette capacité par l'inhibition cette fois, de changer de stratégie de raisonnement et de corriger une erreur, on est là dans les mécanismes de prise de décision et de correction d'erreur. On a pu montrer individu par individu, chaque histogramme représente combien cette activation, qui est le cortex préfrontal ventromédian droit, est activée ou est déactivée, c'est-à-dire désengagée, selon un groupe d'individus qui corrigent l'erreur de raisonnement, donc qui passe de l'appariement perceptif à la réponse logique en ayant cette bascule cérébrale que je viens de vous présenter, qui est là-haut, ou les individus qui restent dans l'erreur. Ils restent dans l'erreur, mais ils sont convaincus qu'ils répondent toujours correctement. Et là, je pense que c'est un vrai phénomène social et même, je dirais, de politique à tous les niveaux et au plus haut niveau, c'est qu'on peut rester dans l'erreur, être insensible au message extérieur, humain, rester dans l'erreur, mais être parfaitement convaincu qu'on répond toujours correctement, parce qu'ils continuent de donner la réponse carré rouge, cercle jaune, et ils vous défendront avec force que c'est la réponse correcte. Et donc, ce qu'on a découvert, c'est que la région du cerveau qui différencie ces deux groupes de façon aussi nette, hein, parce que quand on lance un traitement automatique comme celui-là, on aurait pu avoir des histogrammes qui se distribuent un peu n'importe comment. Là, ça tranche exactement les deux groupes, donc cette différenciation interindividuelle dans l'apprentissage est une région très connue en neuropsychologie clinique depuis plus d'un siècle. Damasio l'a remise à la mode, mais il y en a bien d'autres avant lui, qui établit le lien entre émotion et intelligence, émotion et prise de décision, émotion et raisonnement. Et ce cortex préfrontal ventromédian droit, quand il est lésé chez les patients, il y a dans tous les hôpitaux du monde des patients qu'on dit préfrontaux ventromédian droit, ils perdent, on va dire, le guidage émotionnel du choix de stratégie. Et si je l'applique au thème qui est mon objet d'étude, l'inhibition cognitive, ils perdent le guidage émotionnel de ce qu'il faut inhiber, de ce qu'il faut activer. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder non pas chez des sujets malades, mais chez chacun d'entre nous, chez les sujets sains, c'est bien cette région qui est spécifiquement recrutée et qui différencie les deux groupes selon qu'ils sont ou non capables, avec une autre partie de leur cerveau qui sera plus... Vous constatez en plus, non, la coordonnée n'y est pas, que c'est dans le cerveau droit, cette région-là. Et par ailleurs, elle entre en connexion avec le cortex préfrontal gauche qui, lui, va assurer le contrôle exécutif et l'inhibition elle-même en mémoire de travail. Donc, on a effectivement des données, celles-ci et d'autres, qui montrent que quand on explore cette architecture cognitive aussi, je dirais, abstraite ou intellectualisée, que celle que j'ai décrite au début, hein, objet, nombre, mathématiques, catégorisation, taxonomie et raisonnement hypothético-déductif, à travers le cerveau, on retrouve l'émotion. Et on retrouve des systèmes émotionnels comme celui-là, qui sont en connexion directe avec le système limbique et le corps, qui sont, dans ce cas-là, le seul facteur discriminant ou le plus discriminant de nos deux groupes qui apprennent ou non à corriger leur erreur dans une tâche logico-mathématique. Souvenez-vous, ils sont là, des carrés rouges, des cercles jaunes et des mots de règles conditionnelles qui, a priori, n'avaient strictement rien d'émotionnel. L'inhibition est là et c'est l'inhibition qu'il a, l'émotion qu'il a détermine le potentiel d'inhibition dans l'adaptation intellectuelle. Sur le plan pratique et sociétal, c'est l'un des enjeux de ce congrès, ce que l'on fait, on a tout un programme, ça se fait au Canada et ça se fait également en France, d'apprentissage dès l'école maternelle de ce type de procédure. Parce qu'il n'y a dans aucun programme scolaire un apprentissage à l'inhibition, ni un apprentissage aux fonctions exécutives. On le fait, sans doute que tel ou tel enseignant le fait de façon non systématique ou intuitivement, mais c'est absolument ni pensé, ni organisé. Il n'y a pas de ce point de vue-là en France de psychopédagogie expérimentale organisée. Et on peut le faire de façon très simple. Vous voyez par exemple ces deux petites filles à l'école maternelle. On les met dans un jeu interactif, une interaction de tutelle, aurait dit Vygotsky, face à un livre. Vous savez très bien ce qui se passe, deux enfants face à un livre, ils vont soit se l'arracher, soit vouloir parler en même temps. Et l'oreille. L'oreille va être le déclencheur tout à fait simple du mécanisme inhibiteur. Il y a un jeu de rôle, celui des deux qui tient l'oreille en main inhibe la parole. Donc ne parle pas et écoute l'autre. Et puis on inverse les rôles. Donc ça se fait avec du matériel très simple, de façon très intuitive à l'école, et on peut d'emblée exercer le contrôle inhibiteur, non pas sur un exemple aussi complexe applicable à l'adolescent ou à l'enseignement secondaire que celui que je vous ai présenté, mais de façon très simple dès l'école maternelle. Ou alors, cet autre jeu portant sur le nombre, on demande aux enfants de compter du matériel, donc algorithme de comptage, et on leur donne deux rôles, un compteur et un vérificateur. Le vérificateur se tait, inhibe, contrôle, donne son avis après, et ensuite on inverse les rôles. Donc c'est quelques exemples rapides que je pourrais développer pour vous dire qu'il y a le souci évidemment de sortir du laboratoire, d'aller dans les écoles et de tester en laissant les enseignants se l'approprier à l'école maternelle, primaire ou secondaire, ces procédures expérimentales en classe. Et là, on a constitué par exemple depuis cette année des groupes de formation action avec des réseaux de dizaines d'écoles dans différentes régions de France, notamment en Normandie qui était pionnière sur ce point-là, pour opérationnaliser ces procédures en classe. Un exemple, vous avez annoncé un exemple intermédiaire entre l'exemple sur le bébé et puis l'exemple sur l'adulte, lié à cette courbe pariétale et temporale, mais surtout pariétale qui se développe au cœur du développement de l'enfant, c'est-à-dire ce qu'on appelle chez l'enfant préscolaire, maternel et primaire élémentaire, pour le développement du nombre. Et on va voir la compétition qui se crée dans le cerveau de l'enfant entre le nombre et l'espace, et en quoi l'inhibition, dans ce cas-là, est aussi un mécanisme absolument essentiel pour progresser dans les connaissances et dans la construction de cette architecture cognitive. On sait tous très bien que dans les livres pour enfants, on apprend aux enfants la suite numérique, par exemple de 1 à 10, systématiquement avec les mots de nombre, ce qui est très bien, c'est l'accès au langage, au symbolique, symbolisation des nombres. Et en même temps, on a examiné à peu près toute la littérature enfantine, sont soit des animaux, soit des fruits. En même temps, on illustre 1, 2 hippopotames, 3 crocodiles, etc. L'enfant, le cerveau de l'enfant, apprend explicitement la discrétisation, la symbolique linguistique des nombres. Et comme, si vous le savez, le cerveau est un grand détecteur de régularité à tous les âges, mais encore plus fortement chez l'enfant, le cerveau apprend la stratégie longueur égale nombre. Vous aviez en plus sur cette image ce petit rongeur sur une échelle qui symbolise visuellement, même si ça n'a pas été fait pour ça, une fonction linéaire entre le nombre et la longueur. Et plus le nombre s'accroît, plus la longueur s'accroît. Ce qui veut dire qu'on crée, on apprend un algorithme de comptage dans le cerveau de l'enfant. Et en même temps, ça c'est l'apprentissage explicite, de façon implicite, on exerce son cerveau une heuristique qui est que longueur égale nombre. Et Piaget l'avait découvert, mais sans le mettre dans ce cadre-là et sans aller jusqu'à l'inhibition. C'était vrai, vous l'avez vu avant, des bouliers et toute autre situation, nombreuses situations numériques où l'espace se confond avec le nombre. Piaget avait découvert que si vous présentez à des enfants, et ça a fait le tour des écoles et de tous les labos du monde, donc c'est assez universel, tous les enfants font ça, quelle que soit leur culture, leur race, comme disait François Gros, vous présentez ces deux alignements de jetons, donc sur un ordinateur ou sur du papier, sur une table, et vous demandez à l'enfant, est-ce qu'il y en a pareil ou pas pareil? Est-ce qu'il y en a le même nombre ou pas le même nombre au-dessus de la ligne noire et en dessous? Tous les enfants de 4-5 ans d'école maternelle vous répondront, il y en a pareil. Vous leur demandez pourquoi, ils les comptent et ils feront donc. Ils appliqueront leur concept de nombre, traitement quantitatif du réel, il y en a pareil. Si sous les yeux de l'enfant, vous écartez les jetons de l'alignement du dessous et vous lui dites « Et maintenant, est-ce qu'il y en a toujours pareil, le même nombre ?» À partir de 7 ans, ils vous diront « Ben oui, il y en a toujours pareil, tu peux les rapprocher. » Ce qu'on appelle la réversibilité opératoire en mémoire de travail. On peut annuler l'opération directe par l'opération inverse. On peut les c'est pas ce que dit l'enfant. Hein. L'enfant dit « On peut les rapprocher. Bon, » ben, c'est pareil, on peut les rapprocher, tu n'as rien enlevé, tu n'as rien ajouté. Mais entre 4, 5 ans et 7 ans, ce qui est une période assez longue hein, de l'ontogenèse, plusieurs années, ben, on le voit chez cette petite fille avec un autre matériel, avec des babards, ça marche évidemment avec tout. L'enfant, le jeune enfant va dire « Ah ben non, il n'y en a plus pareil, il n'y en a plus là parce que c'est plus long. » Et il y tient très fortement, comme il tient l'adolescent ou l'adulte que je vous présentais tout à l'heure, qui dira « C'est carré rouge, cercle jaune dans ce problème-là. » C'est ça la réponse logique. L'enfant dira est convaincu que c'est ça la réponse correcte. Mais il se trompe évidemment, hein, même si spatialement les choses ont changé, sur le plan visio-spatial, du point de vue du nombre, les choses sont identiques. Vous vous souvenez de ceci? C'est ce que l'enfant apprend par ailleurs et voit dans ce qu'on appelle les livres de maths pour petits. Son accès au nombre se fait via des dispositifs comme ça. Donc si vous, de mémoire, vous jonglez entre les deux diapos et que vous imaginez ce qui se passe dans la mémoire de travail de l'enfant, il a une compétition neurocognitive entre deux stratégies. L'heuristique longueur égale nombre. Une heuristique en psychologie comme en informatique ou en intelligence artificielle, c'est une stratégie que les humains utilisent beaucoup et les enfants aussi. Très rapide, très efficace, qui marche très bien, très souvent, mais pas toujours. Synonyme d'automatisme. Et le « mais pas toujours », c'est le cas de figure où l'intelligence va être capable d'inhiber. Et ça marche très bien, très souvent, mais pas toujours. Et l'exemple que Piaget avait découvert, en quelque sorte, c'est le cas du « mais pas toujours ». Donc ce qu'on a pu faire aujourd'hui, parce que Piaget avait eu cette intuition de dire que l'intelligence humaine, au cours du développement de l'enfant, c'est sans doute, pas la forme, parce que c'est sans doute trop catégorique, mais l'une des formes optimales de l'adaptation biologique. Donc ce qu'on a pu faire, c'est explorer ce qui se passe dans le cerveau des enfants en prenant ce qui n'a pas été facile, mais qui s'est très bien passé, des petits dès l'école maternelle en les allongeant dans une IRM avec toute une grande préparation dans les écoles avec le psychologue, un aspect très ludique à la passation, et en faisant résoudre le petit problème que je viens de vous présenter aux enfants lorsqu'ils sont dans l'IRM, ils restent immobiles dans l'IRM pendant une demi-heure et ils ont différentes séquences similaires à celle-là. Ils ont deux boutons de réponse dans la main, ils doivent répondre pareil ou pas pareil. On enregistre leur temps de réaction qu'on mesure en millisecondes et on a évidemment la trace de leur jugement. Est-ce qu'ils tombent dans le piège par défaut d'inhibition? Donc auquel cas ils disent c'est pas pareil quand les jetons s'écartent, ou est-ce qu'ils parviennent à inhiber, et vous voyez là qu'on n'est plus dans de l'inhibition motrice mais dans de l'inhibition cognitive, ils parviennent à inhiber l'heuristique longueur égale nombre qui marche partout ailleurs sauf ici, et dans ce cas-là ils appuient sur l'autre bouton qui est pareil. Il faut toujours dire pareil là, mais pour dire pareil, il faut inhiber le récit longueur égale nombre qui évidemment saute à l'esprit et est déclenché par ce matériel expérimental, comme l'était carré rouge, cercle jaune par le matériel expérimental chez l'adolescent ou nous adultes dans une tâche plus complexe de l'architecture cognitive. Donc ce qu'on vient de découvrir, qui est en cours de publication, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre de régions très précises et cohérentes avec ce que l'on connaît du développement neurocognitif par ailleurs, qui, entre les petits, donc le violet le plus foncé, c'est les petits qui se trompent, qui ne parviennent pas à inhiber longueur égale nombre et qui disent qu'il n'y en a plus pareil à droite. Et les plus grands, donc les petits, c'est ce qu'on appelle les non-conservants, parce qu'ils ne conservent pas la notion du nombre en mémoire de travail. Et les plus grands qui sont conservants, qui parviennent à inhiber longueur égale nombre pour activer l'algorithme, qui dans ce cas-là est un algorithme de comptage, il suffit de compter deux fois, mais pour exploiter cet algorithme de comptage dans sa prise de décision. Là, on est vraiment dans la prise de décision quand l'enfant doit appuyer sur l'un ou l'autre bouton. Pour exploiter cet algorithme de comptage dans sa prise de décision, il faut qu'il inhibe l'heuristique longueur égale nombre qui est interférente en mémoire de travail, comme l'était le bruit tout à l'heure dans la cour, et qui titille, qui empêche l'algorithme de comptage de s'appliquer. Et donc là, il faut une force particulière. Ce n'est pas du nombre en tant que tel, ce n'est pas du logico-mathématique, c'est une fonction exécutive qui permet de sélectionner, le cerveau est sélectif comme on le sait, de sélectionner une stratégie par rapport à une autre et de devenir plus intelligent dans cette tâche. Donc on a pu découvrir grâce à ces techniques d'imagerie qu'il y a deux régions qui émergent dans le cerveau des enfants entre ces deux stades de développement. Les plus petits sont des enfants de grandes sections d'école maternelle et les plus grands sont en CM1 et CM2. c'est une région pariétale et une région préfrontale, qui sont deux exemples qui correspondent précisément à ces deux systèmes cérébraux, la courbe centrale, dont vous vous rappelez qu'elle était pariétale et temporale, et la dernière préfrontale, qui connaissent la maturation la plus tardive au cours du développement, sur le plan anatomique. Et là, vous avez, dans une tâche précise, la trace sur le plan fonctionnel, donc comment ça fonctionne dans le cerveau des enfants en développement, à travers cette stratégie exécutive d'inhibition et d'activation de deux stratégie, une heuristique longueur égale nombre, un algorithme, le comptage, qui entre en compétition et qui vous donne un exemple très précis de cette architecture cognitive générale que j'ai évoquée en début. Pour l'exemple du nombre, je pourrais vous donner d'autres exemples, non pas sur le traitement quantitatif, mais sur le traitement qualitatif des objets, la catégorisation. Il y en avait également un exemple sur le raisonnement. J'en ai presque terminé. Un élément quand même sur l'expérience, donc la recherche qui a consacré un numéro spécial cet hiver, qu'ils ont intitulé « Les enfants prêtent leur cerveau à la science ». Sans parler des résultats eux-mêmes, comme je viens de le faire, je voudrais parler du côté sociétal de la recherche. C'était une première en France de le faire avec des enfants sains, hein, parce qu'on nous demande toujours de travailler avec des enfants malades. Bien sûr, c'est très important, mais les Nord-Américains le font beaucoup, donc ils travaillent sur des autistes, tels que c'est évoqué tout à l'heure, sur des hyperactifs. Nous, on a vraiment tenu, et moi c'était un choix scientifique et épistémologique, de d'abord travailler pour cet âge-là sur les enfants sains dans toute leur diversité, c'est-à-dire pas que les bons, pas que les mauvais, pas que les moyens, les enfants dans toute leur diversité telle qu'elle se présente dans toutes les classes de France ou d'ailleurs, réaliser une expérience comme celle-là. C'était validé par un comité d'éthique, bien évidemment, un comité local d'éthique, auquel il a fallu expliquer, c'est important pour les rapports entre neurosciences et société, qu'il était aussi important d'utiliser les techniques d'imagerie biomédicale chez les enfants sains pour découvrir les mécanismes fondamentaux de la construction de l'intelligence qui peuvent alors servir aussi de base, d'éléments comparatifs pour des dysfonctionnements ou des difficultés d'apprentissage par ailleurs. Ça se fait évidemment en partenariat et en convention CNRS, inspection d'académie, rectorat. Je pense réellement que maintenant que cette ergonomie expérimentale est mise en place, ça pourrait être généralisé pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, à beaucoup d'autres écoles, beaucoup d'autres régions, et qu'on ait vraiment une stratégie, je dirais plus nationale, de psychopédagogie expérimentale organisée, où on associe de très près tout ça, se fait que les professeurs des écoles, les conseillers pédagogiques, les directeurs des écoles, les inspecteurs d'académie et les recteurs des académies concernées. Ça ne marche, vous l'imaginez, enfin, je vais le dire à l'envers, ça ne marcherait pas plus d'une journée si ça ne se faisait pas dans un partenariat étroit de confiance importante entre les acteurs de l'éducation nationale et les scientifiques. Et les enfants et les parents, bien sûr, qui sont, les parents étant présents en permanence à toute l'expérimentation. L'un des éléments aussi intéressants, là j'ai un peu décliné le titre de la journée d'études en disant qu'il y a le regard de l'homme, à travers la science, un regard de l'enfant sur l'homme contemporain, un moment clé aussi humainement de ces expériences, c'est le moment où l'enfant, juste après la passation, va regarder sur l'ordinateur l'image de son propre cerveau et comment il s'est comporté pendant la tâche qu'il réalisait. Alors ça va devenir commun et routinier, mais aujourd'hui, dans les découvertes scientifiques en psychologie de l'enfant, ça reste une première, c'est-à-dire les enfants ont des albums de photos de leur papy, de leur mamie, de leurs vacances à la montagne, à la mer, comme nous tous, mais on n'a en général jamais vu son cerveau, et en tout cas jamais vu son cerveau en fonctionnement. Et là, on a une nouvelle génération d'enfants, du moins ceux qui participent à ce type de rapprochement entre science et éducation, qui peuvent voir leur cerveau. Je ne sais pas l'impact que ça aura, on est en train d'essayer de le mesurer d'ailleurs, l'impact sur l'épistémologie naïve de l'enfant et de sa conception des rapports entre cerveau et pensée, mais en tout cas, in situ, ça a eu un impact très très fort sur les enfants et sur les parents, y compris les parents qui nous ont dit qu'ils ne soupçonnaient pas un instant que leurs enfants puissent faire preuve d'autant de concentration, d'immobilité et de supporter autour d'eux autant d'adultes qui leur donnaient des consignes aussi strictes pendant autant de temps. Et les enfants, en général, souhaitent revenir et continuer. Ces deux exemples vous ont illustré, je l'espère, même si c'est trop sélectif, le pôle activateur, le pôle inhibiteur, sachant qu'il faut évidemment tenir compte des deux. Selon les équipes de recherche, vous avez des équipes qui vont davantage se spécialiser dans l'étude de l'imitation, de la résonance motrice, des processus de coactivation, d'empathie, de résonance sociale. D'autres équipes de recherche comme la mienne qui s'intéressent davantage aux fonctions exécutives, à l'inhibition. Vous comprenez, je souhaite à travers ces exemples que c'est bien à chaque fois une distanciation via l'inhibition par rapport aux autres, mais aussi et surtout par rapport à soi. Parce que quand l'enfant fait l'erreur longueur égale nombre et qu'il parvient à l'inhiber, il doit se distancier par rapport à son propre égocentrisme visio-spatial. De même pour l'adolescent et l'adulte. Et cela vaut aussi dans le domaine social. Et diapo suivante. Un seul exemple, il y en a d'autres aussi, sur la question des croyances, qui peut aller jusqu'aux croyances religieuses qu'on évoquait tout à l'heure, mais aussi les croyances scientifiques, et la pluralité des points de vue. Et vous allez voir qu'on retrouve ce mécanisme exécutif d'inhibition et d'activation, ce qu'on appelle le domaine des théories de l'esprit, qui repose en partie sur l'imitation précoce, donc cette capacité à se mettre en résonance avec l'autre du point de vue non plus cette fois de son comportement, tirer la langue, mais de ce qu'il pense, de ce qu'il croit, et aussi la capacité à inhiber la croyance de l'autre ou inhiber sa propre croyance égocentrique. Si vous racontez l'histoire suivante à un enfant d'école maternelle, vous lui dites, ça c'est l'enfant à qui on raconte l'histoire, Maxi, qui est le petit bonhomme qui est en haut, va faire les courses avec sa maman, revient des courses, ils ont acheté du chocolat. Il dispose le chocolat dans le placard bleu. Après, Maxi va jouer dans le jardin, ce que vous voyez là, deuxième image. Et pendant que Maxi va jouer dans le jardin, sa maman prend le chocolat pour faire un gâteau au chocolat. Lorsque le gâteau est fait, il reste un peu de chocolat et sa maman dispose le chocolat dans le placard rose. Après, Maxi, tout cela en l'absence de Maxi. Maxi revient du jardin et on demande à l'enfant, que nous, psychologues, on interroge, à ton avis, où penses-tu que Maxi va aller chercher le chocolat ? Sachant que les deux placards sont refermés, évidemment. Dans le placard bleu ou dans le placard rose. Jusqu'à 7 ans, et ça c'est dans le domaine social, c'est-à-dire la pluralité des croyances des uns et des autres, on retrouve un phénomène identique à ce qu'on avait pour le nombre, c'est-à-dire que l'enfant est incapable d'inhiber une réponse égocentrique. Jusqu'à 7 ans, voire plus tôt, certains réussissent sont des âges moyens, en tout cas jusqu'à 5-6 ans, le jeune enfant va dire « Maxi va aller chercher le chocolat dans le placard rose ». Parce que l'enfant sait qu'il est dans le placard rose. Mais il devrait, au niveau exécutif, inhiber sa connaissance qu'il a de la localisation spatiale effective du chocolat, c'est-à-dire une croyance vraie qui devient une connaissance. Il doit inhiber cette connaissance, cette croyance vraie, pour activer le point de vue de Maxi qui est dans le jardin, n'a pas vu le déplacement du chocolat et devrait croire qu'il est encore dans le placard bleu. Et ce n'est qu'au même âge, vers 6-7 ans, que l'enfant parvient à inhiber la localisation placard rose, donc sa propre croyance, et à répondre, mais Maxi, lui, va aller chercher le chocolat dans le placard bleu. Donc vous avez un autre exemple dans le domaine social qui est évidemment, il y a d'autres exemples que celui-là a donné, à la fois plus simple, parce qu'il y a déjà des conduites plus précoces chez le bébé, plus élaborées, qui vous montrent qu'on touche là au fondement de la pluralité des points de vue, à l'identité, je n'ai pas le temps d'en parler suffisamment, mais là, c'est l'identité au sens classique. Il y a deux choses dans l'identité, ce en quoi on est identique aux autres et ce en quoi on est fondamentalement différent, notre identité psychologique au cours de la vie. Et donc, ça touche à la construction de l'identité parce que je crois ça, l'autre croit ça et par moment, je dois être capable d'inhiber mon propre point de vue, ma propre croyance pour considérer celle de l'autre, le dialogue des cultures et la tolérance. Tout ça est un travail d'équipe, évidemment. Je présente mon équipe. Toute dernière diapo. François Gros y sera sensible. Je voudrais vous dire un mot à cette occasion du fait que dans le cadre du groupe interacadémique pour le développement, il y a un groupe qui s'appelle le groupe Avicenne, qui a été créé sous l'impulsion d'André Capron, qui était délégué des relations internationales à l'Académie des sciences et qui a pour vocation d'appliquer les stratégies, enfin, en tout cas, de réfléchir aux stratégies éducatives avec les recherches telles celles que je viens de vous présenter dans le cadre de la politique de santé et surtout d'éducation à la santé dans l'espace méditerranéen. Et nous avons dans une semaine en Égypte l'Assemblée constituante qui va fonder le réseau EMAN qui comprend 21 pays où on va en tout cas tenter de mener une réflexion sur le lien entre ces découvertes fondamentales sur les cerveaux qui sont sans doute très semblables dans toutes les cultures, mais qui, par ce jeu d'inhibition et d'activation lié à des caractéristiques spécifiques de l'environnement, peuvent connaître des configurations particulières, par exemple en matière d'éducation à la santé. Je vous remercie. Dernière diapo.
Peut-on voir ou envisager les rapports qui peuvent exister entre la science et la politique ? Et notamment donc la décision. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, s'intercale peut-être aussi la morale entre science et politique. C'est vrai que je suis médecin et donc je connais peut-être mieux la médecine que le reste des sciences. Et si pratiquer la médecine ou pratiquer la politique, c'est allier le savoir et le savoir-faire avec des lois d'interdépendance entre disciplines, on ne peut cantonner la médecine au domaine de la personne privée, c'est-à-dire la relation individuelle, et le politique au domaine social, c'est-à-dire l'être social. Car l'une et l'autre, en fait, ont à la fois une vision individuelle et une vision collective. Le médecin, en fait, ce n'est pas tant par le fait qu'il y a l'inné et l'acquis, c'est vrai que donc il y a la génétique, l'environnement qui dialogue, mais en fait, en plus, le médecin considère l'homme en tant qu'un homme avec son corps et son esprit, mais aussi les intérêts collectifs, notamment, on le verra, économiques, organisationnels, sociaux, et qui rentrent dans sa décision finale. Et le politique, lui aussi, non seulement doit avoir une vision collective, et on le sait, mais il a aussi un rôle de défendre les intérêts privés de chacun d'entre nous. Donc il y a toujours cette idée de mélange entre collectif et individuel lorsqu'il y a une prise de décision, et apparaît petit à petit la notion de priorité, la notion de choix collectif ou de choix individuel. Et donc cette décision, comme vous le dites, comme on l'a dit là à l'instant, dépend un peu de cette dimension à la fois de l'individu, l'autre, et de l'individu dans une collectivité. Et c'est bien là la difficulté, c'est que petit à petit, lorsqu'on croyait autrefois que le médecin n'avait qu'une décision individuelle avec son patient, en train de dire « bon, voilà ce qui est de mieux pour vous », petit à petit, il est obligé de faire appel à d'autres notions, notamment la première qui est ce qu'on appelle la médecine basée sur les preuves, c'est-à-dire une preuve, on a déjà fait des essais thérapeutiques, on a prouvé que c'est ça le meilleur. Et donc, on voit se construire des algorithmes qui font qu'il y a une perte de choix, il n'y a presque plus de décision partagée, alors que le patient réclame une décision partagée, car on rentre dans un circuit presque obligatoire de traitement. On le sait bien pour le cancer, on n'a pas beaucoup d'alternatives. On vous dit, il faut faire ci, ça, ça et ça. Et donc, on n'a pas beaucoup de moyens de dire, ben non, je n'ai pas envie de faire ça. Donc, on voit que progressivement, le choix collectif se met dans le dialogue individuel. Et il s'appuie sur la science, il s'appuie sur la science médicale, et il s'appuie aussi sur la science économique. Et donc, dans la politique de sécurité des soins, par exemple, on met des checklists, on en a mis avant d'entrer en salle d'opération, on va en mettre avant de mettre un cathéter central, on va en mettre de ci, de là. Mais ceci rassure tout le monde, rassure peut-être l'acteur d'ailleurs, rassure le gestionnaire. Mais l'excès de toutes ces politiques prescriptives, ces politiques de dire il faut faire ça, faire ci, gêne, et on le sent bien dans ce qui a été dit précédemment, gêne dans la réaction à l'inattendu. Et il y a bien là... on peut apprendre à faire ça, ça, ça et ça, on vient de le voir. Mais il faut aussi se dire que devant l'inattendu, il faut oublier tout cela et essayer de réagir autrement. Donc ce que les Anglais appellent la résilience. Et il y a une grande, d'ailleurs, discussion internationale sur faut-il mettre de plus en plus de prescriptions, des checklists, ou au contraire laisser la résilience, c'est-à-dire de voir comment on peut s'adapter à la variabilité, sachant qu'on n'a pas en face de nous une machine bien huilée, mais on a un homme très variable. Et au contraire, il vaut mieux apprendre à réagir à la variabilité que d'apprendre à être, comment dire, protégé par une checklist. Et donc, c'est là une grande difficulté, parce qu'il y a une école qui dit, au contraire, il faut mettre tout ce qu'ils appellent les managers, les assureurs, les avocats, tout ce qui rentre dans ce registre. Il faut mettre beaucoup de prescriptions. Et inversement, ceux qui s'occupent de la sécurité, notamment des grands penseurs et surtout scientifiques de la sécurité, disent au contraire, il faut essayer d'apprendre à réagir face à la variabilité, et au contraire, c'est la variabilité qui est importante. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait le progrès, parce que si on rend tout figé, il n'y a plus de progrès, en plus. C'est-à-dire qu'on ne peut plus améliorer le système. Donc vous voyez qu'il y a là une difficulté entre mêler l'individuel et le collectif, mêler, en fait, contre la prescription et la variabilité. Si on essaie d'aller un peu plus loin, on peut se poser la question, est-ce que la science médicale et la politique font bon ménage? C'est-à-dire, quelle est l'influence de la science sur la politique de santé? Et vice-versa, en fait, quelle est l'influence de la politique de santé sur la science? Alors, le savoir scientifique peut-il apporter une aide à la politique de santé et comment? La politique, elle cherche, et d'autre part, est-ce que la politique cherche à gérer la science? Donc, c'est ça un peu la difficulté, c'est quel est le dialogue entre le politique et le scientifique aujourd'hui? Les liens entre la science et la politique de santé se révèlent lorsqu'on va vers une décision. On l'a vu tout à l'heure, c'est le moment de la décision où on se pose la question que fait l'un, que fait l'autre. Et là, principalement, on s'aperçoit que cette décision, notamment dans les politiques de santé, c'est entre le regard d'un intérêt individuel et le regard d'un intérêt collectif. Alors si on a bien le parti de droite qui défend le côté privé, le parti de gauche qui défend le côté collectif, très vite, le politique, ça ne suffit pas pour prendre sa décision. Il demande à ce que, dans le doute, le scientifique vienne l'aider. Et c'est là où on cherche un expert. Et donc l'expert sert d'intermédiaire, l'expert scientifique sert d'intermédiaire, entre une vision individuelle et une vision collective pour pouvoir prendre une décision. Et l'expert, c'est le sachant. Le sachant qui va dire, ben voilà, je vous dis, c'est ça, on sait, avec les expériences que nous avons faites, on peut vous dire ça. Mais ça ne suffit plus. Ce n'est plus ça du tout maintenant. Donc après ça, on essaye d'évaluer les bénéfices et les risques. C'est-à-dire, lorsque l'on prend telle décision, il y a tel risque, tel bénéfice. C'est vrai que c'est un pas en avant, c'est ce que font certaines agences pour aider. Et en fait, l'expert doit maintenant prendre en considération non seulement le bénéfice et le risque médical, mais aussi l'économie, l'aspect social, les organisations qui sont perturbées, un peu le tout. Et donc, on s'aperçoit que l'expertise n'est plus le fait même d'une personne ou d'un petit groupe, d'un comité, mais même quelquefois d'une commission et de façon plus large, quelquefois une agence entière. Et pour plus de crédibilité, ont été créées d'ailleurs ces agences, des agences qui ont aidé le décideur, notamment pour le médicament. Il y a ce qu'on appelle l'AFSAPS, qui est une agence de médicaments, qui aide le décideur pour voir le bénéfice-risque. Mais parfois, la décision est encore plus difficile à être acceptée par la population. Mettons, par exemple, on rembourse, on dérembourse un médicament. Dérembourser un médicament, la population ne supporte pas bien. Elle dit, on est jusqu'à présent, je l'avais, maintenant je ne l'ai plus, qu'est-ce qui se passe? Si c'est fait par le gouvernement lui-même, l'exécutif, ce n'est pas accepté. C'est fait par l'assurance maladie, qui est en fait le financeur, ce n'est pas accepté. Si c'est fait par une agence sous tutelle, comme l'agence du médicament, qui dépend directement de l'exécutif, on lui dit, bon, ils avaient avantage à dérembourser, ou au contraire, il y avait d'autres raisons. Donc, ou s'ils gardent tel médicament, c'est parce qu'il y a un clientélisme, qu'ils sont bien avec telle ou telle firme pharmaceutique. Donc, il y a là discussion. Donc, progressivement, tous les pays ont cherché à avoir un organisme indépendant, à la fois du financeur et à la fois du décideur, pour pouvoir aider la décision. Et faire en sorte que la population ne puisse pas dire c'est parce qu'il y avait du clientélisme ou parce qu'il y avait un avantage du financeur ou du décideur. Donc on voit que petit à petit se créent ces autorités indépendantes, alors que vraiment, on peut se poser la question, pourquoi créer une autorité indépendante? C'est pour avoir plus de crédibilité. Et en fait, le mot indépendance est synonyme de crédibilité. C'est pour pouvoir dire que oui, il y a bien eu une expertise pour voir ce qui était positif et négatif. Oui, il y a bien eu concertation de toutes les parties prenantes. Et oui, il y a bien eu transparence, c'est-à-dire que l'autorité donne son avis avant que la décision ne soit prise par l'exécutif. C'est-à-dire que ça met en porte-à-faux l'exécutif de ce fait. Donc on voit que progressivement, le politique va devenir emprisonné par le scientifique. Le politique ne peut plus dire ce qu'il a envie de dire. Et donc, comme l'a dit le Conseil d'État, c'est une perte du pouvoir du politique. C'est-à-dire que le scientifique a pris une part de décision par rapport au politique. Et donc, c'est un vrai sujet, parce que beaucoup aimeraient bien que le politique reprenne, en fin de compte, sa position de pouvoir. Et progressivement, on s'aperçoit que le politique a perdu pouvoir et au profit du scientifique. Et inversement, si je regarde l'autre versant, le politique conduit le scientifique. C'est-à-dire que le politique, maintenant, flèche la recherche. Il dit, il faut chercher dans tel domaine. Vous voyez bien le plan Alzheimer, le plan cancer. Il y a donc là une volonté pour dire, maintenant, c'est là où vous devez chercher et pas ailleurs. Alors qu'on sait très bien que la recherche, en fait, on doit la mener partout. Et c'est bien ce qu'on a trouvé ailleurs qui servira d'ailleurs pour ce plan ou Alzheimer ou cancer. Donc il y a là, si vous voulez, une évolution où on sent que le politique veut interférer sur la recherche, veut interférer sur la médecine. Et je vais vous prendre un exemple pour voir avec vous. En 1850... 40% de la population mourait avant l'âge de 4 ans. L'espérance de vie à la naissance était de 40 ans. En 1925, 25% en fin de compte, de mortalité avant l'âge de 4 ans. En 1950, 7% de mortalité avant l'âge de 4 ans. Et aujourd'hui, dans les pays occidentaux, 2 pour 1000 seulement, donc de mortalité avant l'âge de 4 ans. Donc l'histoire de l'hygiène et tout ce qui touche la petite enfance semble être réglé, et ceci se fait dans la plupart des populations. On voit actuellement donc que ça va assez vite dans le monde entier. Arrivent ensuite les maladies infectieuses qui tuaient les gens avant 35 ans. Depuis 1945, les antibiotiques sont venus, il n'y a pratiquement plus de grande mortalité. Donc arrive quoi aujourd'hui? Des maladies dues à la société. Parce qu'on mange avec trop de sel, trop de sucre, trop de graisse, parce qu'on fume, parce que l'on boit, parce qu'il y a des accidents de route, parce qu'il y a des accidents domestiques, des accidents de travail. C'est donc plus que des maladies de société, entre guillemets. Et que fait la société? Elle dit, c'est à moi de la prendre en charge. Donc est née la santé publique, avec tout ce que l'on connaît, la prévention, et on dicte, en fin de compte, on dicte, voilà ce que vous devez faire. Et donc la population perd petit à petit d'ailleurs sa liberté, mais les médecins aussi perdent leur liberté, parce qu'on leur dit, voilà ce que vous devez faire face à la population. On voit progressivement que le médecin, qui était autrefois un décrypteur de la nature, qui faisait des expériences, qui essayait d'améliorer, en fait est lui aussi emprisonné. De plus en plus emprisonné, comme le politique est emprisonné par le scientifique, le médecin est emprisonné par le politique. Et on n'a plus, comme autrefois, je vais prendre un autre exemple, celui des greffes, qui a été pris tout à l'heure donc, par Edgardo Carosella. Dans la greffe, il avait été dit, il est interdit de mutiler une personne en dehors du fait qu'elle avait une maladie et qu'on devait lui supprimer un membre. Or là, on enlève un rein à une personne pour le donner à un autre, et entre personnes vivantes. C'était donc une interdiction. Il a fallu que se construise une idée pour dire que sauver autrui est au-dessus le fait de l'interdiction de la mutilation de la personne. Ensuite, une autre idée, la mort était cardiaque. Et toujours, on a toujours admis que c'est l'arrêt du cœur qui définit la mort. Or, les greffeurs, ceux qui greffaient, ont dit, si le cœur est arrêté, moi, je n'arrive pas bien à greffer. Donc, il faut absolument que le cœur bat encore, et donc la mort est cérébrale. Donc, il a fallu admettre donc, un nouveau concept, que la mort était cérébrale. Et c'est vrai que la mort est cérébrale. On vient de le voir, c'est le cerveau qui conduit tout. Mais c'est un changement de culture, mais radical. Mais alors, une opposition, mais totale, des populations. Il a fallu... Les chirurgiens ont commencé en 1963, hein, donc d'abord en Belgique, puis aussitôt après en France avec Jean Burger et son équipe chirurgicale, pour faire des greffes chez des personnes qui étaient mortes cérébralement. Mais il a fallu attendre 5 ans, 1968, pour que une circulaire, Jeannenet, accepte que l'on parle de mort cérébrale. Pendant 5 ans, les médecins et chirurgiens faisaient de l'homicide volontaire. Homicide volontaire. Ils auraient dû être en prison. Eh bien non, ça a été accepté. Et petit à petit, donc, on a admis moralement qu'il y avait une mort cérébrale. Mais il a fallu longtemps. Vous savez que l'Angleterre, c'est qu'en 1974, le Danemark, c'est qu'en l'an 2000 qu'ils ont admis cela. Et au Japon et en Chine, ça ne vient que de s'admettre récemment. Donc ce n'est pas naturel. C'est quelque chose, il faut, comme vous l'avez dit tout à l'heure, lever une inhibition sociale. C'est-à-dire qu'il faut sortir de ce concept de la mort cardiaque pour une mort cérébrale. Donc oui, que progressivement... On a là des moments où le médecin, en fin de compte, faisait des actes avant la loi. Or, aujourd'hui, comme je vous l'ai montré, puisque ce sont des maladies de société, puisqu'on a des algorithmes, puisqu'il y a de l'économie qui est toujours prenante, pour dire qu'il faut bien que le système soit durable et soutenable, de ce fait-là, c'est la loi avant l'acte. Et on a mis des lois partout. On a mis les lois de protection de la personne, les lois de bioéthique, les lois de ci, les lois de ça, les lois de santé publique et autres. On met des lois partout. On veut encadrer complètement et la recherche et le médecin. Mais si je regarde le futur avec les sauts technologiques qui vont arriver, quels sont les grands sauts technologiques qui vont arriver? Les grands sauts technologiques, c'est la cellule souche pour les maladies dégénératives. On sent bien qu'il va y avoir la possibilité de régénérer notre organisme grâce aux cellules souches, qu'elles soient embryonnaires ou adultes. Mais de toute façon, quand on prend une cellule souche, on la manipule un peu et on l'injecte et ça donne des tératomes. Ce qui est pas... Et même quelquefois des cancers. Donc on prend des risques. Et l'autre point, c'est que l'autre grande saut technologique que je vois, c'est proche de ce qui vient d'être dit, c'est la stimulation du cerveau pour changer les comportements. On va connaître les centres, les noyaux, et on sait qu'en stimulant telle ou telle chose, quelqu'un qui avait une obsession, une personne d'obsession, donc on peut dire, on va mieux connaître, comme vous l'avez montré à l'instant, les points sensibles, et pourquoi pas aller stimuler là, celui-là. Et puis si on n'a jamais un petit dispositif qu'on laisse en permanence, qu'on peut stimuler quand on veut, ou on peut mettre un médicament qui s'accroche, qui se met dessus, tout peut être inventé actuellement. Or, travailler sur la cellule souche, il y a un interdit, et faire de la chirurgie du cerveau, il y a un interdit. Interdit social, interdit moral, interdit... Donc, la question qui va se poser dans ces sauts technologiques, c'est est-ce qu'on va revenir comme autrefois l'acte avant la loi, ou est-ce qu'on va garder la loi avant l'acte? Et ça, c'est un vrai sujet de société future, où, ma foi, on ne sait pas très bien ce qui va sortir de ce futur. Mais on est au cœur du problème. Et si on regarde, ce n'est pas la précaution, parce que certains ont dit « principe de précaution, on ne touche à rien ». Non, si on fait le principe de précaution, d'abord, il s'applique qu'à l'environnement et pas à la santé. Il faut bien distinguer les deux choses. Il s'applique si un phénomène qui est dramatique pour une population et pour toute la Terre, alors que là, on s'intéresse qu'à une personne. Donc, je crois qu'il faut bien distinguer principe de précaution en santé, tel qu'on vient de le voir, et principe de précaution pour l'environnement. On touche beaucoup plus au problème de sécurité, mais problème de sécurité dans le sens éthique du problème. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, pour l'instant, on peut soigner, certes, des maladies dégénératives, de ci, de là, avec des petits produits, qui ne sont pas terribles, il faut bien voir les choses. Mais on sent qu'il y a un potentiel sur ces cellules souches. Doit-on être strict pour la sécurité du soin, avec des produits qu'on connaît, qui ne sont pas dangereux, et qu'on applique facilement, ou doit-on faire ce saut technologique ? Et on se rend compte qu'on est dans une discussion non pas de bénéfice-risque individuel, que l'on connaît bien pour tous les produits, mais dans une discussion de risque individuel pour un bénéfice de collectivité. Et ça en change complètement, en fin de compte, de registre. C'est-à-dire que c'est le risque pour une personne qui va donc faire cet essai dans le but qu'il y ait un potentiel bénéfique futur et qu'on ne connaît pas. On ne connaît ni l'un ni l'autre, d'ailleurs. Donc on est dans un brouillard. Et c'est là où la décision devient difficile, la décision collective devient difficile. Et pour l'instant, on a assez peu de moyens pour répondre à cela. Sûrement, il y a le Parlement qui essaye de faire des lois. Il y a aussi le fait que certaines agences, notamment l'agence de biomédecine, a cet avantage. C'est qu'en plus d'un conseil d'administration, un conseil scientifique, ils ont mis un conseil d'orientation qui est en fait un conseil sociétal, c'est-à-dire des représentants de toute la société. Et quand il y a une innovation, notamment génétique ou cellulaire, on fait appel à eux et c'est eux qui vont dire oui, la société accepte ou n'accepte pas. En plus du comité de protection des personnes, en plus de l'agence de sécurité, en plus de tout ce qu'on peut imaginer. Donc vous voyez qu'il y a une dimension, on a parlé de l'expert tout à l'heure, maintenant il y a plus que l'expert, il y a une dimension sociétale dans la décision. Il faut que la société prenne part dans la décision. Et ça, on ne sait pas bien le faire. On fait des débats publics, on fait des consultations publiques, on fait des conférences citoyennes, on éduque des citoyens, mais en fait, quand ce n'est pas la société. Donc il y a à trouver aujourd'hui comment on va essayer de mettre ensemble, en fait, compte cette vision expertise entre le scientifique et le politique et une vision sociétale. Parce que le bénéfice potentiel de la population est difficilement jugé. Alors ça a été posé notamment au Conseil national d'éthique, au Conseil consultatif national d'éthique, qu'il a vu dès le deuxième avis. Et dès le deuxième avis, il avait dit « Le médecin se trouve ainsi confronté sur le plan de l'éthique à deux impératifs. Le souci de l'intérêt de son patient lui enjoint de lui administrer le traitement considéré comme le meilleur, en l'état actuel des connaissances. Mais aussi le souci du bien collectif, de la santé publique, lui dicte de faire en sorte que le traitement de son patient puisse contribuer au progrès de la thérapeutique. » Donc on a là, même le Conseil national d'éthique, considère que le risque individuel doit être mis en contrepartie avec un bénéfice collectif. Et d'ailleurs, il l'a redit, donc dans un avis numéro 73, il l'a redit, la société dans son ensemble doit être consciente que l'exigence de la recherche peut conduire à privilégier parfois les intérêts de la communauté au détriment de l'individu. Il y a là une vision nouvelle, je crois, intéressante, dans laquelle il faudra qu'on construise tous ensemble comment juger cela. Ce n'est pas tellement le comité de protection des personnes qui va protéger la personne. Ce n'est pas l'agence de sécurité, la SAPS, parce qu'elle ne connaît que les normes actuelles pour des produits bien définis. Donc il faut trouver un moyen d'évaluer tous ensemble ces sauts technologiques que seront probablement les cellules souches, la chirurgie du cerveau et bien d'autres qui peuvent arriver. Donc vous voyez que c'est dans cette vision-là qu'on doit essayer d'aller un peu plus loin. Et lorsqu'on parle d'esprit, lorsqu'on parle d'essayer d'aller un peu plus loin, il est vrai qu'on a mis là quelque chose d'autre que l'objectivité de l'expert. On a mis de la subjectivité de la société. Parce que si je fais appel à ce groupe sociétal, comme à l'agence de biomédecine, c'est par subjectivité qu'il va raisonner. Et ça, c'est un sujet, c'est-à-dire que où est la croyance dans cette subjectivité ? Et comme on l'a dit tout à l'heure, puisque la dernière diapositive parlait de la croyance, qui est cru aujourd'hui et qui est crédible aujourd'hui ? Est-ce que c'est Dieu ? On peut croire à une religion. Est-ce que c'est le scientifique ? C'est le politique ? Certains croient en la science comme on pourrait croire en Dieu. D'autres suivent une doctrine politique comme une doctrine religieuse. C'est vrai que là, on est dans une situation où on ne sait plus très bien où se trouve, votre compte, ce côté croyance. Et c'est un sujet où on pourrait avancer dans le fait que par ces débats publics, ces consultations publiques, ces conseils d'orientation, qu'on appelle conseils sociétaux, sont en fait assez peu représentatifs de toute la société. Donc on va faire des référendums pour tout à tout moment. Donc et puis en plus, on ne peut pas éduquer tout le monde à tout moment. Donc on va être dans une difficulté, je crois, dans la décision future de ce lien entre science et politique de santé. Et je vais essayer d'avancer un petit peu parce que on a aujourd'hui, je crois, on est confronté à un dernier problème, c'est que on a parlé du politique, on a parlé du scientifique, mais qui sont-ils aujourd'hui ? Et que représente le politique, que représente le scientifique ? Le politique, C'est un homme qui dit, voilà mon programme, voilà ce que je vais faire, et voilà ce que je vous propose. On l'a bien vu, Sarkozy a proposé un programme, et est-ce qu'il l'a suivi ? En phase de crise, en phase de moments extrêmement difficiles, il ne fait que répondre à l'environnement. Et quel qu'était son programme, je mets moins d'impôts, il va être obligé d'en mettre plus. Je mets moins de choses, il va être obligé de répondre à un problème qui est immédiat. Et donc, est-ce que, et tous les politiques sont les mêmes aujourd'hui, hein, est-ce que le politique qui avait mis un programme va le suivre ? De moins en moins. Et il y a de plus en plus une dissociation entre ce qu'ils ont dit et ce qu'ils font. Et quand plus il y aura cette dissociation, moins le politique sera crédible. Et en fait, on se demandera pourquoi il parle avant, peut-être pour dire un peu sa pensée, sa subjectivité. Mais en fait, compte, dans l'état des faits, il fera autrement. Et le scientifique, qui est en principe un homme indépendant et qui vit au long terme, en réfléchissant sur ses découvertes, de plus en plus, il est pris dans un engrenage avec une recherche qui est fléchée. Et on lui dit qu'il faut chercher là, sinon il n'y aura pas d'argent. En plus, dès qu'il a fait une découverte, il se dit, et on le lui dit, tout de suite, il faut mettre le brevet, quitte à faire une entreprise, il fait une start-up, il est engagé. Et petit à petit, il sert de conseiller à l'un et l'autre, de moyen en finance. Et il y a là donc une relation entre le lucre, enfin le côté lucratif et la science. Alors, on peut se demander, est-il indépendant ? Que fait-il ? Et c'est vrai que si on s'aperçoit que eux et le politique et le scientifique n'ont plus les mêmes objectifs, n'ont plus les mêmes bases fondamentales, là, ce que je viens de vous dire ne correspond plus à rien. Et donc, il faudra peut-être qu'on retrouve un nouvel ordre politique, c'est-à-dire comment se passe en fait la décision, et est-ce qu'une parole sera suivie d'un acte, et comment se passe la science, c'est-à-dire de faire en sorte qu'une science soit indépendante et qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, qu'il n'y ait pas de phénomènes qui puissent faire croire qu'il y a un défaut de crédibilité. Donc, en conclusion de ce que je viens de vous dire, le dialogue entre le politique et le scientifique, au fur et à mesure que l'un influe sur l'autre, se fait plus distant depuis le conseiller qui est proche du décideur, l'expert, l'agence, l'autorité indépendante, jusqu'à mettre des intermédiaires qui sont des intermédiaires sociaux ou sociétaux de citoyens. Et si le politique gagne en crédibilité, parce qu'en fait, quand il est conforté dans sa décision, en fait, il perd du pouvoir. Et sa décision, en fin de compte, politique, est-elle la sienne ou celle du scientifique ? Et on peut se poser la question aujourd'hui quand on voit les derniers événements. Le scientifique, lui, gagne en efficacité, même en efficience, mais est-ce qu'il ne perd pas son âme lorsqu'il fiche son activité en obéissant aux incitations du financeur ou bien lorsqu'il répond immédiatement à une demande d'un décideur ? Et lorsqu'il dit qu'il ne sait pas, ou lorsque sa prévision n'est pas suivie, à ce moment-là, il perd totale crédibilité. Et en plus, lorsqu'il est avec certains conflits d'intérêts, parce qu'en fait, compte, il a monté une start-up, parce qu'il a mêlé, en fait, compte, la recherche et l'application, et fait en sorte qu'il n'y a plus de discontinuité entre les deux, il y a une continuité, il y a donc suspicion de la part de la population. Tout ceci, c'est pour vous dire que quand on prend l'exemple de la vaccination ou de la campagne de vaccination H1N1, on voit bien que tout ce que je viens de vous dire est un peu entré en jeu. Et s'il faut qu'il y ait un lien entre science et politique, c'est vrai qu'on peut se poser cette question. Ce lien est certainement nécessaire, mais il est aussi dangereux. Et donc on va voir dans le futur, parce que c'est toujours ex post, c'est toujours après que l'on peut voir si la décision était bonne ou pas bonne et qu'on peut la juger. On va voir donc après les événements récents que nous avons connus, si en fait compte, on a eu raison de prendre ces décisions. Merci.
Alors, la conclusion sera donnée par notre organisatrice, Bérénice Tournafond, qui a donc la parole pour conclure ce colloque.
Merci beaucoup, François. C'est surtout moi qui tiens à vous remercier pour vos exposés remarquables et pour nous avoir permis de mieux appréhender en fait, les dernières découvertes scientifiques et ce qu'elles nous apportent comme information sur ce que l'on est et sur la façon dont on réagit. Et justement, pour ouvrir le débat qui aura lieu donc à l'automne sur la complémentarité entre les différentes disciplines, ce que les sciences apportent et expliquent sur l'art, comment la sociologie peut nous permettre aussi de répondre à un certain nombre de problèmes actuels, tout en étant confirmés ou infirmés par les découvertes scientifiques. Les prochaines réunions donc, qui auront lieu à l'automne seront annoncées sur notre site. On a créé un site internet pour l'occasion que vous pouvez consulter, qui est www.hommecontemporain.org. Sur ce site, vous pourrez d'ailleurs avoir accès aux émissions de Canal Académie et être informé justement des prochaines dates qui seront retenues à l'automne pour la suite du colloque Regard sur l'homme contemporain, cette fois-ci à travers la morale et à travers la politique, et en envisageant bien entendu toujours l'aspect scientifique.
Ainsi se termine la première session du colloque Regard sur l'homme contemporain à travers la science, la morale et la politique, session ici consacrée plus spécifiquement à la science. Vous avez pu entendre sur Canal Académie François Gros, Edgardo Carosella, Olivier Houdet et Laurent Degausse, ainsi que la co-organisatrice de ce colloque, Bérénice Tournafond. Pour en savoir plus sur les deux prochaines sessions de ce colloque, l'un consacré à la morale et le dernier sur la politique, connectez-vous au www.hommecontemporain.org. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.